Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Et donc nous sommes dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la Révolution française, une histoire des luttes de classe, de genre et décoloniale. Une émission donc en trois parties. Une première partie sur les luttes de classe en France à partir du livre de Daniel Guérin, Bourgeois et Bras Nus, Guerre sociale durant la Révolution française, paru aux éditions Libertalia en 2013. Avec en deuxième partie les luttes de genre durant la Révolution française, qui est le domaine de spécialité de notre invité que je vais présenter incessamment sous peu. Et la troisième partie, donc sur les luttes décoloniales, donc autour de l'ouvrage Les Jacobins Noirs, Toussaint l'Ouverture et la Révolution de Saint-Domingue de C.L.R. James, paru aux éditions Amsterdam en 2017 et qui a été résumé dans Histoire des révoltes panafricaines, également de C.L.R. James et également aux éditions Amsterdam. Et donc pour parler de tout ça, nous sommes avec Caroline Fayol, maîtresse de conférences à l'Université de Montpellier, membre du comité de lecture des revues La Révolution française et Revue d'histoire du XIXe siècle, et autrice sur ce sujet de La femme nouvelle, genre, éducation, révolution 1789-1830 aux éditions du CHTS en 2017, et de Le féminisme, histoire et actualité, aux presses universitaires Blaise Pascal en 2018, et elle a également co-dirigé Genre et Utopie, autour donc de l'œuvre de Michel Rio-Sarcé, aux presses universitaires de Vincennes en 2014. Et évidemment, elle a écrit de nombreux articles à ce sujet, dont un que je signale qui est particulièrement intéressant, qui s'appelle « L'universalisme en conflit, trois féministes européennes dans la Révolution française » et qui est donc disponible en ligne dans la revue Comment s'en sortir. Donc bonjour Caroline Fayol.
Bonjour.
Alors, donc vaste programme qui nous attend. Alors, la lecture, disons, de la jeunesse de cette société de classe et aussi de la Révolution française que j'utilise ici est celle du marxisme politique. Et donc, je m'inspire pas mal d'un ouvrage qui s'appelle Rethinking the French Revolution, donc Repenser la Révolution française, de Georges Comminel, qui était paru aux éditions Verso au moment du bicentenaire de la Révolution française. Et son interprétation, disons, de l'origine de la Révolution française était la suivante, que la société d'Ancien Régime n'était pas une société capitaliste, mais une société d'Ancien Régime, par exemple, quelqu'un comme Jean-Yves Grenier parle d'économie d'Ancien Régime, une économie, une société qui ne sont pas encore gouvernées par les contraintes impersonnelles d'un marché unifié ou simplement des logique de classe capitaliste ou des rapports entre prolétaires et bourgeois, mais par des logiques sur lesquelles on ne va pas s'étendre ici. Encore une société d'ordre, une société où la noblesse et le clergé occupent encore une place très importante, où la possession de privilèges, de monopoles est extrêmement importante, où il n'y a pas donc une logique de concurrence généralisée, il y a des douanes intérieures, il y a des corporations, donc il n'y a pas de marché du travail unifié à l'échelle de la France. Et donc tout ça fait que la structure de classe de la société d'Ancien Régime est quand même assez différente de la nôtre, puisque globalement, il n'y a pas que la richesse monétaire qui joue,
puisqu'il y a également des logiques voilà, d'ordre. Et également, souvent ceux qu'on a qualifiés de bourgeois, c'est-à-dire entre guillemets les riches qui ne sont pas nobles, ne fonctionnent pas exactement comme la bourgeoisie, disons, du 19e ou du 20e siècle, dans le sens où leur idéal reste celui de d'être des nobles, c'est-à-dire d'acquérir des terres et d'en tirer une rente foncière. Donc c'est pas tellement une logique de l'investissement permanent pour rester compétitif sur un marché national extrêmement concurrentiel, mais plutôt une logique de thésaurisation pour faire des investissements qui visent à une promotion sociale et à assurer un revenu régulier avec donc un idéal aristocratique plutôt que l'idéal d'entreprises toujours plus importantes qui font face à une concurrence mondiale, etc. En lien avec cette structure de classe et cette logique économique de la société française, Georges Comminel proposait d'expliquer la Révolution française comme le fait que cette société française, donc qui est basée sur cette logique, disons, d'ancien régime, s'est trouvée face à une société qui, elle, était déjà capitaliste, qui était la société anglaise, et qui, elle, fonctionnait selon le principe, effectivement, de classe capitaliste, d'un marché national unifié, extrêmement concurrentiel, etc. Et à partir de la fin du XVIIe siècle, ces deux sociétés se sont régulièrement affrontées militairement, notamment, et pour Comminel et les marxistes politiques, c'est un point de bascule, au cours de la guerre de 7 ans, où la France va être laminée, va perdre ses colonies en Amérique du Nord, le Canada, l'Inde, et finalement, on ne va plus avoir comme colonie celle dont on va parler, notamment Saint-Domingue. Et en fait, c'est lié pour les marxistes politiques à la supériorité en fait, militaire de l'Angleterre, qui est elle-même permise par la supériorité de son modèle économique, entre guillemets. Et ça n'a rien de positif, hein. Les marxistes politiques sont évidemment anticapitalistes, mais ils considèrent que, à ce moment-là, du moins, la logique capitaliste, notamment parce qu'elle permettait une plus grosse productivité agricole, une plus grande efficacité, etc., eh bien, ça donnait une supériorité militaire. Et donc, ensuite, ça c'est notamment David McNally qui l'explique dans un de ses livres, donc c'est un autre marxiste politique, dans un de ses livres qui s'appelait Political Economy and the Rise of Capitalism. Donc lui, il expliquait que c'était donc suite à cette guerre de 7 ans qui avait été un désastre pour la France, qu'en France, il y allait avoir des tentatives de réforme de la société française sur le modèle anglais avec les physiocrates, donc qui vont régulièrement occuper des postes très importants dans le gouvernement monarchique à partir de ce moment-là. Ils vont essayer en fait de, par l'absolutisme et non pas par, comme en Angleterre, le capitalisme était globalement le produit de, disons, de l'aristocratie qui était passée d'une aristocratie féodale à une aristocratie capitaliste, notamment à travers l'expropriation des paysans. Et là, dans le cas français, les physiocrates espéraient que la monarchie absolutiste pourrait jouer le même rôle et restructurer la société française pour lui donner une base économique, et donc fiscale, et donc militaire, supérieure. Et donc, notamment, procéder à l'abolition des corporations, donc l'établissement d'un marché du travail national libre, et aussi la fin d'une logique de monopole, de limitation des quantités de production, une logique de concurrence qui permettrait l'augmentation de la productivité, etc. etc. L'abolition de toutes les barrières douanières internes, qui est évidemment un frein au commerce et à la compétition généralisée. Et éventuellement, de ça découlerait notamment la restructuration de la propriété foncière, qui en France, il faut le préciser, est très différente de celle en Angleterre. C'est-à-dire qu'en Angleterre, globalement, c'est l'aristocratie qui, au XVIIIe siècle, possède l'essentiel des terres avec la bourgeoisie, alors qu'en France, c'est globalement la paysannerie qui tient 50 à 55% des terres et qui cultive globalement le reste d'ailleurs aussi, plutôt sous forme de location, de métayage, etc. Et donc, pour les physiocrates, la manière d'opérer ça, c'était la liberté du commerce des grains. Donc, ils vont essayer plusieurs fois de mettre en place cette mesure qui aurait donné naissance à une espèce de marché national de compétition entre les producteurs de blé, et qui aurait instauré une espèce de dynamique de compétition généralisée, qui aurait éliminé tous les petits paysans, qui aurait forcé la bourgeoisie, l'aristocratie à investir dans des moyens de production, augmenter leur productivité, utiliser des salariés agricoles, et pas simplement les louer aux paysans du coin pour une somme exorbitante. Et en fait, ces réformes vont échouer plusieurs fois par l'opposition d'une grande partie de l'aristocratie, qui est évidemment opposée à toute forme de changement social. La monarchie craignant une forme d'instabilité sociale. Et il y a des moments, effectivement, comme la guerre des farines entre 1774 et 1776, où va y avoir des révoltes très importantes dans Paris, va y avoir une répression féroce. Mais disons qu'évidemment, les mesures de libéralisation du commerce provoquent du mécontentement du côté des classes qui ont intérêt au statu quo, et aussi du côté des classes, notamment urbaines, qui veulent un pain pas cher, quoi. Et donc, toutes ces tentatives de réforme vont successivement échouer. Et le problème, c'est que, dans le même temps, la France continue de subir la pression militaire et commerciale de l'Angleterre. Donc, il y a notamment l'épisode de la guerre d'indépendance américaine qui va ruiner les finances royales. Et la tentative, disons, de moderniser de force la société française de 1786 avec un traité de commerce qui, en gros, ouvrait la France aux marchandises anglaises et l'Angleterre aux marchandises françaises, va s'avérer un désastre, puisque l'industrie française, en fait, n'est pas du tout compétitive par rapport à l'industrie capitaliste anglaise. Et donc, ce qui va se passer, selon l'interprétation du marxisme politique, c'est que, d'une part, l'ancien régime cherche à affronter l'Angleterre sur un terrain militaire et un terrain commercial, mais elle n'y arrive pas et elle se ruine ce faisant. Et du coup, le roi va être forcé notamment de convoquer les états généraux en 1789, qui est un peu le moment fondateur de la Révolution française, d'un point de vue, disons, événementiel. Et d'autre part, ces tentatives récurrentes de restructuration vont provoquer du mécontentement de part et d'autre. D'une part, un mécontentement réactionnaire de la part d'une partie de l'aristocratie et du clergé qui vont s'arc-bouter sur leurs privilèges, et qui vont former le camp contre-révolutionnaire, d'ailleurs, pendant la Révolution française. Et d'autre part, un mécontentement populaire qui n'apprécie pas les tentatives de libéralisation du commerce. Et puis, troisièmement, on pourrait dire un mécontentement de la part de ceux, qui, comme les physiocrates ou une partie de ce qu'on peut appeler la bourgeoisie libérale, mais qui en réalité ne sont pas des propriétaires de moyens de production, qui sont souvent des avocats, des gens, disons, qui sont destinés un petit peu à faire de la politique, et qu'on va retrouver au cœur de la classe politique révolutionnaire, eh bien, ces gens-là ne sont pas satisfaits du fait que la monarchie n'arrive pas à réformer structurellement la société française. Disons, toutes ces contradictions, entre guillemets, ces contradictions de classe, ces contradictions entre réforme et réaction, et cette contradiction interne, disons, à la société d'Ancien Régime et à la monarchie absolutiste, vont préfigurer le cocktail de 1789. Et donc, c'est dans ce théâtre que vont se produire tous les événements dont parle Daniel Guérin, donc dans Bourgeois et Bras-Nus. Peut-être qu'on pourrait du coup expliquer un petit peu dans quel contexte Daniel Guérin a écrit ce livre.
Oui, alors Daniel Guérin, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas bien, c'est une figure du marxisme libertaire en France. C'est un intellectuel, c'est un militant. Il va nous intéresser en plus particulièrement aujourd'hui parce que justement dans cette approche un petit peu intersectionnelle qu'on a essayé de faire entre la classe, le genre et la race, finalement Guérin c'est quelqu'un qui s'est intéressé aussi à la pluralité de ses aspects dans ses engagements. Hein. C'est quelqu'un qui a travaillé sur la question de la classe pendant la Révolution française, on va en parler tout de suite. Mais c'est aussi quelqu'un qui s'est engagé à la fin de sa vie dans le front homosexuel d'Action révolutionnaire, donc la création du Phare, donc qui était aussi où il y avait beaucoup de féministes matérialistes qui étaient présentes dans le Phare, comme Christine Delphi. Donc il y a eu dans ses engagements ce lien fort avec la question des minorités sexuelles et sexuées. Et puis c'est aussi quelqu'un qui s'est engagé dans les luttes décoloniales, et notamment aussi qui a fait un voyage aux États-Unis ou qui a suivi les luttes des Noirs américains, etc. Finalement, par cet engagement, il a abordé un petit peu plein d'aspects, donc c'est pour ça que c'est une figure tutélaire assez, assez bien pour cette émission. Alors, pour revenir à ta question sur pourquoi il s'est intéressé à la Révolution française, ça vient après-guerre, et le point de départ de Guérin, c'est l'effondrement des idéologies. C'est quelqu'un qui va être profondément anti-stalinien, qui va du coup prendre ses distances avec le communisme classique, orthodoxe, et il va partir de l'idée que la gauche doit reprendre tout depuis zéro, en fait. Et donc, parce qu'on doit reprendre depuis zéro, il faut aller faire appel à l'histoire, appel au passé, et notamment à un événement fondateur qu'est la Révolution française, pour finalement se reconstruire une pensée politique critique. Et donc, ce qu'il va essayer aussi de chercher dans la Révolution française, c'est un peu une des obsessions que va avoir Daniel Guérin, et qui explique très bien Guillon dans sa préface à l'ouvrage dont tu as parlé, hein, qui a fait une remarquable préface à cet ouvrage, qui est ressorti chez Libertalia, c'est qu'il cherche à faire une synthèse entre marxisme et pensée libertaire, marxisme et anarchisme. Et il va essayer d'aller voir en quoi la Révolution française n'a pas les germes d'une pensée politique, d'une pratique aussi politique, pas seulement une pensée, d'une pratique, qui permettrait de l'aider à construire cette synthèse entre anarchisme et marxisme. Donc voilà, donc c'est vraiment un impératif politique qui va guider Daniel Guérin vers l'histoire. C'est pas un érudit qui a un rapport à on va aller juste s'intéresser à ce qui se faisait, etc. Non, il y a vraiment l'idée que l'histoire est là pour répondre à un problème du présent. Je crois que c'est aussi ça qui fait l'actualité de la pensée de Daniel Guérin, c'est parce qu'il a une écriture qui est portée par une exigence politique et une urgence politique, en fait.
Oui, c'est d'ailleurs intéressant aussi pour aujourd'hui de s'intéresser à la Révolution française de cette manière-là. La Révolution française, d'une certaine manière, on a l'impression aujourd'hui que c'est devenu un petit peu un objet froid. C'est plus l'objet de discussions passionnées comme au cours du 19e et du 20e siècle entre des interprétations contre-révolutionnaires, bourgeoises et libérales, et enfin marxistes jacobines. Et du coup, finalement, le livre de Daniel Guérin, il permet à la fois de proposer une autre interprétation qui, à notre avis, est plus intéressante, notamment parce que elle offre notamment un point de vue critique sur tous les gouvernements révolutionnaires, et pas seulement sur celui des Girondins, mais aussi notamment sur la figure de Robespierre, du comité de salut public, ou le gouvernement Montagnard, qui en général à gauche est porté au nu et pas du tout critiqué. Et je pense que Guérin, il offre quand même une critique là-dessus, disons intéressante jusqu'à aujourd'hui pour la critique, disons, d'une gauche de gouvernement, même une gauche un petit peu autoritaire et antilibérale. Et puis, d'autre part, il va chercher, disons, dans la Révolution française, quelque chose qui est très intéressant, qui est des luttes de classe, au-delà, disons, des différents partis qui s'affrontent, du clivage gauche-droite, etc. Et ça, c'est quelque chose quand même de très intéressant.
C'est ça. En fait, Guérin aussi, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que c'est pas un universitaire. Donc, il va pouvoir finalement faire un pas de côté par rapport à l'institution aussi. Hein. Je pense que ça joue dans son écriture et dans sa manière de proposer une vision de la Révolution française. Mais c'est en même temps quelqu'un qui n'est pas universitaire, mais qui va chercher toujours à dialoguer quand même avec les universitaires, et notamment l'école qu'on a appelée l'école jacobine, un petit peu, qui est représentée par des grandes figures, hein, comme Lefebvre, comme Soboul, etc. Et finalement, ce dialogue n'a jamais vraiment eu lieu, mais il y a quand même des transferts, on sent qu'il y a eu des influences et des lectures qui ont été faites quand même entre les deux mondes. Et c'est vrai que un des buts de Guérin, c'est ce qu'il a dit très tôt, hein, sa volonté de déjacobiniser la Révolution française. Déjacobiniser, c'est parce que voilà, il a l'impression que finalement, que ça soit dans la lecture libérale ou dans la lecture marxiste orthodoxe, finalement, il y a toujours l'idée que la Révolution serait un peu une unité et qu'elle serait mue finalement par le projet jacobin. Qu'on soit contre elle ou pour elle, il y aurait cette unité. Or, ce qui est intéressant dans la démarche de Guérin, c'est qu'il va essayer de finalement trouver la Révolution française et son double. Je dirais, pour un peu faire référence aussi au fameux texte de Trotsky, qui a beaucoup influencé Guérin. C'est-à-dire qu'il va essayer de voir le conflit dans la Révolution française et restaurer cette conflictualité pour voir apparaître plusieurs modèles révolutionnaires qui vont s'affronter. Et il se trouve que ces modèles révolutionnaires qui s'affrontent, c'est à la fois des modèles qui viennent d'un antagonisme de classe, mais c'est aussi un antagonisme politique, c'est-à-dire ces deux modèles de démocratie qui s'affrontent aussi. Bien sûr, les deux sont liés. Mais il y a vraiment cet aspect à la fois structurel de classe et l'aspect politique aussi qui est présent chez Guérin, qui est articulé. Sachant qu'il va, pour réfléchir à ce dédoublement de la Révolution française, s'inscrire dans une lignée de penseurs anarchistes, hein, quand même, qui ont fait un regard aussi un petit peu différent sur la Révolution française.
Comme Kropotkine, par exemple.
Plus que Proudhon, c'est Kropotkine, effectivement, qui va lui aussi essayer de dédoubler la Révolution française, lui aussi s'insurger un peu contre les historiens dominants de son temps, hein, les Louis Blanc, les Michelet, etc., qui il estime aussi qu'ils sont trop pris par les figures des dirigeants révolutionnaires, et finalement qui laissent complètement invisible ceux qui font la révolution, en fait, par le bas, comme on dit, hein, ceux qui la font par l'insurrection aussi, et qui ont inventé finalement plein de pratiques politiques nouvelles, qui sont donc les classes populaires. Kropotkine va jusqu'à voir dans les classes populaires des anarchistes, hein, il va les appeler les anarchistes, sachant que le mot est un peu piégé à ce moment-là quand il l'utilise, puisque pendant la Révolution française, on utilisait le terme anarchiste, mais dans un sens tout à fait différent, hein, c'était un terme péjoratif pour dire, voilà, il y avait les contre-révolutionnaires, les anarchistes et tous ceux qui faisaient que la Révolution n'allait pas aboutir. Donc voilà, Kropotkine fait un petit renversement sémantique un petit peu provocateur, et donc voit dans la Révolution française un affrontement entre un modèle jacobin centralisé, qui a ce fameux préjugé gouvernemental dont parle Proudhon, et une composante populaire qui viendrait défendre un modèle anti-hiérarchique et anti-étatique de la Révolution.
Et justement, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est ce que fait Kropotkin comme ce que fait Guérin, c'est qu'en fait, il déplace le clivage d'un clivage qui finalement est interne à ce qu'en général on appelle la bourgeoisie, mais qui serait peut-être plus propre d'impler, disons, les professions intellectuelles et libérales, puisque c'est ça globalement la classe politique révolutionnaire. Il y avait également une historienne qui parlait de bourgeoisie d'ancien régime, pour désigner un petit peu tous ces avocats, ces notaires, qui finalement ne sont pas des bourgeois au sens marxiste, de propriétaires de moyens de production, mais qui, voilà, appartiennent à, effectivement, une certaine classe, qui en général ont un titre, une reconnaissance sociale, une forme de rente, etc. Et du coup, finalement, la critique que propose Guérin, c'est d'une part de relire les affrontements politiques entre montagnards et girondins, et avant entre, disons, ceux qui sont plus proches du roi, les feuillants, et d'autre part les jacobins. Enfin voilà, relire toute l'histoire de ces affrontements comme finalement des affrontements au sein de la bourgeoisie révolutionnaire, et pas comme l'ensemble des affrontements de la société de l'époque. Et d'autre part, d'en faire une sorte d'analyse matérialiste en disant, par exemple, que les Girondins représentent plutôt les intérêts du commerce extérieur, des colonies, alors que les Montagnards représentent plutôt les intérêts des manufactures d'armement, disons de ceux qui ont le plus à perdre en cas de contre-révolution, notamment ceux qui sont propriétaires qui ont acquis des biens nationaux, donc toutes ces terres qui ont été confisquées au clergé et à l'aristocratie réactionnaire. Et mais en même temps, il se contente pas non plus que de faire cette espèce d'analyse matérialiste des contradictions à l'intérieur de la classe bourgeoise, mais il va finalement dire le clivage principal, c'est pas tellement celui-là, mais c'est plutôt un clivage entre bourgeois et bras nus, quoi.
Voilà, c'est ça. Je dirais même que, à la lecture aussi, affrontement entre la noblesse d'Ancien Régime et la bourgeoisie naissante, qui était une des lectures aussi traditionnelles de la dynamique de la Révolution française, il va montrer qu'il y a l'avènement finalement d'un autre antagoniste de classe entre bourgeois et bras nus. Alors après, reste à savoir qui sont ces bras nus, justement. Hein. Ça, c'est toute la complexité de la chose. Et c'est aussi un des points un peu de discussion qui a pu avoir lieu entre les travaux de Daël Guérin d'une part et le grand spécialiste de la sans-culotterie qui est Soboul qui lui a fait un travail d'archives tout à fait titanesque sur la sans-culotterie parisienne, chose que n'a pas fait Guérin hein, qui s'appuie plus sur des sources secondaires. Et donc comment définir ce bras nu? Alors il y a plusieurs problèmes qui se posent. Déjà chez Guérin, bon, le bras nu ça peut s'assimiler au sans-culotte, à cette figure du sans-culotte. Alors là, il y a plusieurs problèmes qui se posent là précisément. C'est que d'une part, les sans-culottes, comme l'a montré Soboul, c'était pas ce qu'on appelait après au XIXe siècle les ouvriers. Il pouvait avoir des ouvriers déjà, il y avait déjà des ouvriers bien sûr, mais il y avait ce qu'on appelle aussi les artisans, les boutiquiers, etc. Et ça pouvait aussi être des travailleurs qui possédaient leurs propres moyens de production, à toute petite échelle pour autant, hein, mais qui n'étaient pas totalement dépossédés.
Donc, c'est pas des prolétaires, du coup.
Du coup, en ce sens-là, l'expression bras nus, prolétaires, etc., peut poser problème, puisqu'on est effectivement, exactement ce que tu disais au départ, cette lecture, la bourgeoisie détient un moyen de production et les prolétaires sont ceux qui sont exploités parce qu'ils n'ont pas de moyen de production et n'ont que leurs bras pour travailler, ne correspond pas totalement aux sans-culottes de la Révolution française. On va dire qu'il y a une diversité sociologique qui est beaucoup plus grande du fait qu'on est dans ça encore un modèle, comme tu le disais, économique d'ancien régime.
Et d'ailleurs, ça, on va le retrouvé pour 1830, 1848 et même jusque 1871. En fait, cette sociologie, entre guillemets, disons des classes populaires révolutionnaires, c'est pas des prolétaires en 1830, en 1848, en 1870. C'est aussi des artisans, il y a aussi des petits propriétaires.
Les choses vont aussi quand même pas mal changer dans les années 40. On va avoir justement l'affirmation de la figure du prolétaire avec la révolution industrielle qui commence à prendre des proportions très importante en France et qui fait que commence à apparaître cette figure-là de celui qui n'a que ses bras pour travailler. Et c'est vrai que là, c'est le socialisme et même Marx va être héritier aussi de cette reconfiguration des classes populaires. Mais c'est vrai que la Révolution française, il y a ce jeu d'ambiguïté qui fait que projeter le schéma de classe tel qu'on l'a connu dans le 19e siècle et aujourd'hui, évidemment, est à manier avec précaution. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser, mais à chaque fois, à montrer, comme l'a fait Thompson, qu'il y a une historicité de la classe. Que la classe, ce n'est pas quelque chose, finalement, ce n'est pas un schéma qu'on peut plaquer comme ça sur des réels historiques, mais au contraire, montrer comment ça se forme, comment ça évolue, comment ça se reconfigure. Et donc, premier problème, c'est en question c'est sans culottes. Deuxième problème aussi, c'est Soboul qui a insisté là-dessus, et là, je pense qu'il n'a pas tort. La sans culotte, c'est aussi une catégorie politique pendant la Révolution française. Ça renvoie pas seulement à une appartenance aux classes populaires. Ça, c'est toute une figure par la question de l'habit, hein, qui fait écho d'ailleurs pas mal aux gilets jaunes. Et puis c'est aussi une catégorie qui implique d'être pour, après septembre 92, d'être pour la République, par exemple, etc., etc. Donc c'est pour ça que l'opposition que fait Daniel Guérin entre bourgeois et bras nus, ça va être plutôt une opposition finalement entre donc, des révolutionnaires qui ont un projet politique qui est à la fois mu par une pensée libérale quand même si dans ce libéralisme politique, il y a beaucoup de variantes. C'est une étiquette un petit peu, peut-être un peu trop vaste. Et en tout cas aussi qu'il y avait une volonté de construire un État, de moderniser l'État, et qui fonctionnait avant tout sur la notion de système représentatif. Tandis que les classes populaires qui se sont engagées massivement dans la Révolution française auraient, selon Guérin, défendu un modèle démocratique qui serait plus un modèle de ce qu'on pourrait appeler, en tout cas, proximité avec la démocratie directe. Donc une critique, finalement, de cet élément de la représentation, en tout cas une relecture de la représentation qui serait beaucoup plus complexe. Et il a tout à fait raison de voir qu'il y a une tension permanente entre, par exemple, les députés de l'Assemblée nationale, et d'autre part, ce qu'on a appelé la Commune de Paris, où, après la République, les sans-culottes étaient... Enfin, c'était quand même un lieu d'expression de la pensée sans-culottes. Et il y a aussi, bien sûr, les sections, on appelle les sections parisiennes, hein, qui sont des lieux où on délibère à l'échelle locale. Et dans ces lieux de délibération à l'échelle locale, on va aussi penser des modèles comme, par exemple, non pas le représentant, mais le mandataire. Déjà, il y a tous ces débats qui avaient été analysés par aussi Maurice Gentil, qui a fait des ouvrages très intéressants sur la question. Donc, mandataire, c'est-à-dire qui est révocable et qui est sans cesse aussi sous la surveillance populaire et qui n'est pas du tout l'idée qu'il y a une délégation de souveraineté comme le propose le système représentatif.
Finalement, l'aboutissement un peu de cette dynamique, c'est les idées de Gracchus-Babeuf.
Oui, il termine sur les idées de Babeuf, effectivement. Pour lui, il va chercher dans la Révolution ce germe d'une pensée anti-étatique et populaire. Et il va voir dans, finalement, la pensée de Babeuf, une conceptualisation de cette pensée populaire qu'il a vue, qu'il a étudiée en acte entre 93 et 95. Donc Babeuf serait l'aboutissement un petit peu conceptuel de ses expériences politiques d'en bas.
Et fait. D'ailleurs, c'est intéressant, justement, Babeuf, quand on lit un peu précisément ce qu'a fait Babeuf, on voit que, entre guillemets, l'idéal, disons, d'une société voilà, dont la Révolution aurait triomphé et tout ça, est quand même très différent du modèle de celui du milieu du 19e, fin 19e siècle, puisque lui, il envisage plutôt une société de petits propriétaires, plutôt qu'une société où il n'y aurait plus de propriété privée. Et finalement, il envisage plutôt, disons, une socialisation des moyens de consommation et de distribution, entre guillemets. Et là, finalement, il réplique une expérience que lui-même avait vécue, c'est-à-dire des espèces de magasins où il y avait une partie des productions qui étaient collectées, ensuite redistribuées selon une logique en fonction des besoins des gens. Mais il ne va pas jusqu'à l'idée, par exemple, ou très peu, d'une espèce de socialisation des moyens de production. Il reste quand même plutôt dans un idéal. Et ça reflète aussi la structure de la société française de l'époque, qui était l'existence d'une classe paysanne composée 80% de la population et qui était des petits propriétaires, globalement, ou qui aspiraient à des petits propriétaires, ça dépendait des cas. Et d'autre part, de très nombreux producteurs qui n'étaient pas encore complètement dépossédés de leurs moyens de production, mais qui les possédaient individuellement ou dans le cadre d'un compagnonnage, etc. quoi.
Oui, tout à fait. Après, on peut dire que la pensée de Babeuf aussi s'inscrit dans ce qu'on a appelé a posteriori les utopistes du 18e, que Stéphanie Rosa a étudié. Par ailleurs, même ce qu'on a appelé aussi les utopistes jusqu'en 1848, jusqu'à 1948, pour une part, avait certes une critique de la propriété, mais n'était pas dans une logique d'étatisation, etc. Parce que justement, ça pouvait être vu comme le préjugé gouvernemental à nouveau, ou le préjugé étatique qui viendrait empêcher au contraire la dynamique naturelle du travail, en fait, qui viendrait s'auto-organiser, en fait. d'auto-organisation par le travail. Donc du coup, c'est vrai qu'on est dans un temps où il n'y a pas encore d'opposition radicale entre d'une part propriété et communautarisation et étatisation. On n'est pas dans ce schéma-là encore. Mais après, ce qui est vrai, ce qui est intéressant quand même chez Guérin, mais il y a des jeux d'écart parfois qui sont un peu remarqués, c'est que Babeuf, c'est quelqu'un où il y a quand même une critique du système de la propriété. Enfin, on voit une forme de communisme chez Babeuf. Est-ce que c'est présent chez les sans-culottes? Ça a discuté. Et c'est vrai que Guérin a tendance à vouloir un peu englober tout ça. Alors bien sûr, il y avait une pluralité de profils, il y avait une pluralité d'intérêts à l'intérieur même de la sans-culotterie, déjà. D'autre part, il y a eu beaucoup de propositions qui avaient été soutenues par la sans-culotterie, qui étaient des propositions d'étatisation de l'économie, comme la fameuse loi sur le maximum, qui visait justement à fixer un maximum des prix du grain. Après, ça s'est étendu à d'autres denrées, pour empêcher justement les phénomènes de spéculation, etc. Puis ça s'accompagnait de la lutte contre ce qu'on appelait les accapareurs. Et donc là, c'était l'idée, c'est à l'État de réguler une économie pour protéger les classes populaires. Donc là, est-ce que du coup, on peut voir dans cette mesure-là la fameuse pensée démocratique anti-étatiste que suggère Guérin ? C'est pas évident. Mais, oui. Mais en même temps, il en a conscience, hein, Guérin, mais il montre que c'est en tension tout ça. Hein, mais,
même chez Babeuf, d'ailleurs, l'idéal de la République, il y a quand même un État encore chez Babeuf.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Même si après, on peut voir aussi des germes de pensée de fédération, ce qu'on pourrait appeler de communes locales. Quoi. Et d'ailleurs, Guérin va s'intéresser aux districts, puis après aux sections, enfin à tous ces projets de création d'entités locales d'autogestion, en fait, hein, on dirait aujourd'hui. Et il y avait certains projets qui commençaient à fleurir de fédéraliser ces différentes entités politiques. Et lui voyait ça comme un germe possible pour penser justement un modèle décentralisé et anti-étatique, qui n'aurait pas été totalement théorisé pendant la Révolution française, mais l'idée serait là en germe. Et dans ce germe, il y a quelque chose qui est un possible, qui va continuellement chercher à exister après dans tout le 19e siècle, qui va traverser comme ça le 19e siècle jusqu'au 20e siècle, et il estime que c'est ce germe qu'il faut retrouver en fait pour construire la gauche de l'avenir.
Oui, c'est là effectivement où la Révolution française est un moment un peu fondateur, à la fois donc de cette lutte de classe qui pour la première fois prend en partie une forme qu'on va retrouver au 19e siècle, et puis aussi au niveau de la pensée politique où on commence à émettre des idées de. Notamment, tout à l'heure, quand je parlais de socialisation, qui peut être aussi une socialisation non étatique. C'est-à-dire l'idée qu'on peut collectivement avoir des moyens de production sans que ce soit l'État, mais que ce soit une commune, par exemple. Et à la fois, on voit les germes un petit peu de cette pensée, au niveau des structures socio-économiques. Et puis en même temps, au niveau des structures politiques, on commence à y avoir les germes de l'idée d'une fédération qui se reposerait à l'État, puisque l'État, c'est une logique centralisée, bureaucratique et du haut vers le bas. Donc là, du coup, ce serait une structure décentralisée, du bas vers le haut, et non autoritaire, puisque précisément, il y aurait tout ce système de mandat, de contre-pouvoir, qui ferait en sorte que le pouvoir ne puisse jamais se concentrer. Quoi.
Et tout à fait. Et ce qui donne après, des fois, dans sa tentative toujours de cette synthèse entre marxisme et anarchisme dont je parlais au début, qui l'anime, à un moment, il explique qu'il y a deux systèmes d'avant-garde qui s'affrontent aussi. Il y a l'avant-garde jacobine qui va donner le modèle de la dictature jacobine, donc de la terreur. Et à cela, il répond que finalement, chez les sans-culottes, il y a aussi une avant-garde. On est dans une pensée où les avant-gardes étaient très importantes dans les années 50. Donc voilà, je pense que ça a joué aussi sa vision. Et que dans cette avant-garde sans-culottes, il y aurait aussi le germe de la dictature du prolétariat. Donc qu'en fait, la dictature du prolétariat, il s'appuie sur un texte de Engels qui dit que c'est la Révolution française qui a fait la première expérience de la dictature du prolétariat. Donc le terme dictature, bien sûr, pas à prendre comme il peut avoir en son sens encore aujourd'hui. Mais il serait à prendre en compte comme l'idée, justement, une avant-garde qui prendrait momentanément le pouvoir pour pouvoir instaurer cette république anti-autoritaire. Donc il y a ce paradoxe, cette tension à nouveau qui anime Guérin et sa vision de la Révolution, du coup.
Oui, qui est évidemment lié à son parcours politique extrêmement tumultueux, puisqu'il vient du trotskisme début des années 30,
c'est
et puis il va progressivement devenir libertaire sans rompre jamais complètement ouais. avec son trotskisme et son côté avant-gardiste notamment.
C'est ça, tout à fait, exactement.
Et par rapport à ça, j'avais trouvé assez intéressante, alors peut-être un petit peu trop structurelle, mais je me demande que dit l'historiographie aujourd'hui quand il repart de la guerre, en fait, mm-hmm. de la déclaration de guerre d'avril 1792, et que la guerre, évidemment, est un événement central à partir du moment où elle est déclarée de la Révolution française. On pourrait dire que c'est une des grandes dynamiques structurantes de la Révolution française.
Mmh, sûr.
Qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces thèses sur le fait notamment que la bourgeoisie révolutionnaire a besoin, du fait qu'elle est dans la guerre, d'une espèce de radicalisation politique progressive et de s'assurer d'une certaine manière le concours des classes populaires, quoi, des bras nus.
Mais c'est ça, en fait, c'est que là où finalement les classes populaires vont avoir, ils vont avoir un rôle d'en bas très clair, mais ce qui fait aussi pression sur les députés. Et c'est cette pression populaire qui va faire le vote de certaines lois, faire certaines décisions sociales, notamment. Il faut toujours penser qu'il y a effectivement, c'est dans le rapport de force, dans cette conflictualité, que peut s'expliquer aussi des positions de Jacobins qui peut paraître assez radicales sur certains points, mais il faut le remettre dans ce contexte-là. Et on va le voir aussi pour la question coloniale, où c'est la même chose. Les députés vont être clairement sous pression aussi pour prendre les décisions, notamment de l'abolition de l'esclavage. Et donc, le contexte de la guerre fait bien sûr que ce qui va se passer, c'est qu'on a un modèle de citoyenneté qui est le modèle du citoyen-soldat qui apparaît. C'est celui qui va combattre. Et évidemment, c'est ce modèle du citoyen-soldat de 92 qui va émerger, qui va faire d'ailleurs que le suffrage universel, puis la constitution de l'an 1, qui sera finalement jamais appliquée, en 93, va être mis en place. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce modèle seulement où c'est les députés bourgeois de l'Assemblée qui vont un peu expliquer au peuple comment il faut se conduire et quelles normes il faut adopter. Mais tout d'un coup, le citoyen-soldat qui devient le modèle du vrai citoyen, qu'on appelle la régénération des messieurs, qui va chercher à incarner les valeurs du bon citoyen. C'est au peuple d'apprendre aux bourgeois à incarner ce modèle de citoyenneté vertueux. Donc, et là, on retrouve aussi, du coup, cette idée que la guerre va complètement transformer le rapport de force entre députés et gouvernés.
Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que ce que montre Guérin un petit peu, c'est que dans les phases où l'armée révolutionnaire est en difficulté, ce sont des phases où le rapport de force va être plus en faveur des sans-culottes. Et par contre, quand il y a des phases de victoire militaire, et c'est pour ça que finalement Bonaparte est celui qui va mettre un terme finalement à cette période d'intense lutte de classe, parce que précisément il va obtenir suffisamment de victoires militaires pour avoir les mains libres, entre guillemets, pour réprimer les classes populaires à Paris notamment. Parce que évidemment, le livre de Guérin, on l'a pas trop précisé, mais c'est quand même très centré sur Paris, comme beaucoup d'histoires de la Révolution française. Et par contre, ce rapport à la guerre, c'est ce qui explique notamment l'évolution de l'attitude de Robespierre, qui est évidemment toujours le grand héros de la gauche étatiste encore aujourd'hui, et qui, dans les phases où finalement la France est moins en danger, à la fin 1793 et début 1794, va être plus capable, disons, notamment de faire des mesures qui sont clairement dirigées contre les classes populaires, contre leurs avant-gardes, notamment les enragés.
Oui, tout à fait. Alors ça aussi, c'est un élément important qui est cette fameuse figure de la lutte, pas seulement entre factions girondines matinières, mais contre des jacobins, contre, on pourrait appeler l'extrême-gauche un peu de l'époque, notamment les hébertistes, puis les enragés. C'est des militants particulièrement intéressants, puisqu'ils vont défendre un modèle politique radical qui va finalement dévoiler aussi, je dirais, le conservatisme de figures comme Robespierre. La répression de ces mouvements-là qui permet aussi de mieux illustrer ce que veut dire Kropotkine après sur l'idée de bourgeoisie autoritaire, etc. Il dit, il faut se dessiller avec la figure de Robespierre. C'était pas quelqu'un qui voulait amener le peuple au communisme. Il n'est pas tout seul, Robespierre, on est bien d'accord. Il n'y a pas de dictateur Robespierre. Ce courant politique qui était majoritaire à un moment voulait défendre ce qu'il nommait même un ordre républicain. Et cet ordre républicain, il imposait de réprimer des positions qui étaient plus radicales que les leurs. C'est vrai que ces débats-là sont compliqués parce que même les Russes, même Lénine, etc., ont eu ces mythes de Robespierre, en fait. Ce qui fait que c'est dans le marxisme orthodoxe que Guérin combattait, Et ben finalement, pour ces marxistes orthodoxes, on pourrait penser qu'ils vont aller à un recul critique vis-à-vis de Robespierre, puisque ces mesures ne sont pas proprement, vont pas dans le sens du communisme tel qu'il pourrait aspirer. Ben non, ils vont rester dans ce modèle de la figure pré-Lénine ou pré-Staline que pourrait incarner Robespierre. Ce qui est un fantasme total, hein, mais qui a animé finalement l'historiographie. Et c'est vrai que Daniel Guérin, on l'a beaucoup accusé à travers sa critique de Robespierre féroce d'être une critique derrière de Staline. Donc il y a des jeux de fantômes comme ça qu'il y a entre la Révolution russe et la Révolution française qui expliquent aussi et Daniel Guérin et sa réception.
Oui, oui, ça c'est intéressant parce que effectivement, finalement, le fait que Robespierre ait été si peu critiqué dans le marxisme, c'est lié évidemment au fait qu'on voyait dans Robespierre un précurseur de Lénine. Mmh. Et je rajouterais aussi le fait que, et ça je pense que c'est quelque chose qui limite un petit peu Guérin sur certains aspects, c'est cette lecture un peu téléologique de l'histoire, comme une succession de modes de production automatiques et structurels, où il y a très peu de place pour les acteurs de l'histoire, leur capacité à faire l'histoire, même si ce n'est pas dans les conditions qu'ils ont choisies.
Et à être transformés eux-mêmes.
C'est ça.
Par les événements, oui. Mmh.
C'est aussi lié à une vision donc, de toute la gauche, même marxiste, de la Révolution française comme une étape nécessaire sur le chemin du capitalisme, puis du socialisme, puis du communisme. Et chez Guérin, on voit un petit peu parfois cette idée de c'était la limite objective, il pouvait pas aller plus loin. Donc finalement, il redonne beaucoup d'agentivité, entre guillemets, on dirait. Mmh. Aujourd'hui, il fait moins peser cette espèce de téléologie historique à l'aune de laquelle la Révolution française a si souvent été jugée, mm-hmm. positivement ou négativement. Il y en a d'autres qui en ont fait une figure repoussoire, comme François Furet, mm-hmm. qui disent que finalement, tout ce qui s'est passé après 1789, c'est une erreur de l'histoire. Et qu'est-ce qu'on peut dire, justement, par rapport au fait que Guérin, à la fois, donne beaucoup d'agentivité aux acteurs, mais en même temps, reste prisonnier sur certains aspects d'un lecture un petit peu déterministe de la Révolution française.
Bah, ça rejoint un petit peu ce que je disais au départ, qu'il n'a pas eu beaucoup de contact avec le rapport aux archives. Et donc, que finalement, les archives, même s'il ne faut pas sanctifier les archives, parce que ça reste souvent des archives étatiques qu'on a, mais il y a quand même diverses sources maintenant qui permettent d'avoir accès justement à une vision un petit peu subjective de des révolutions. C'est-à-dire où on voit des acteurs, comme je disais, être transformés, vouloir agir, revenir en arrière, enfin en tout cas, ne pas être dans uniquement un schéma prédéterminé. Donc ce retour aux acteurs et finalement ce retour à une forme de vision par le bas, hein. Il y a eu beaucoup de travaux sur l'histoire par le bas, dans le sillon d'Hervé Guérin, qui a été une sorte de précurseur pour le coup, hein, qui ont donné la parole à ceux qui ne l'ont pas, qui ont donné de la visibilité, notamment aux femmes qui n'en avaient pas à l'époque, ou qui étaient assez inaudibles. Et donc quand on est au plus proche comme ça de la parole des acteurs, on se rend compte que la révolution, ce qui fait révolution, c'est pas seulement le passage d'un modèle à un autre sur le plan structurel, c'est aussi des modèles de subjectivation qui naissent. Et ces modèles de subjectivation politique se traduisent par des conflits aussi, par des constructions de soi, des récits de soi aussi. Hein, ça rappelle tout le travail d'Aïm Burstein sur le protagonisme révolutionnaire. Et dans cette construction de soi, il y a bien sûr quelque chose qui échappe toujours. C'est ça aussi qui est intéressant dans l'histoire, qui fait la chair de l'histoire, aux pures lectures déterministes, comme tu dis. Je pense qu'il y a cet aspect de subjectivation qui est assez peu présent chez Guérin, qui est lié à l'état des sources qu'il pouvait avoir accès aussi à l'époque.
Mais peut-être que là où finalement il donne quand même un petit peu de marge de manœuvre aux acteurs, c'est précisément en montrant que la Révolution française à cette période donc de la Première République, donc lui se concentre principalement sur 1792-1794, donc en gros de l'établissement de la Première République suite à la chute de la monarchie le 10 août 1792 jusqu'à à peu près la chute de Robespierre, hein, globalement en juillet 1794. Il montre bien comment est-ce que la bourgeoisie révolutionnaire est prise dans plein de contradictions qui fait que finalement ça offre de la marge de manœuvre en fait aux acteurs.
Oui, tout à fait. Oui, il y a tout à fait une capacité d'agir chez Guérin, hein, je ne voulais pas dire le contraire. Hein. Enfin, justement, ce qui est intéressant chez Guérin, c'est que c'est la tension entre capacité d'agir et structure. Et je pense c'est une piste qui est tout à fait intéressante à poursuivre pour les historiens d'aujourd'hui, c'est d'être dans cet entre-deux, entre d'une part structure et conjoncture révolutionnaire, montrer qu'il y a des dynamiques propres aux mécanismes révolutionnaires qui échappent à une pure lecture structurelle, mais qui s'explique par ce que c'est qu'un bouleversement révolutionnaire, simplement. Sinon, ce n'est pas une révolution s'il n'y a pas de l'incertain, de l'imprévisible, des possibles qui s'ouvrent qui n'existaient pas avant. Donc ça, c'est ce qui fait révolution. Donc c'est ce rapport entre structure-conjoncture et ce rapport, comme je disais après, entre structure et subjectivation. Je pense que c'est les deux tensions et Daniel Guérin nous aide à ouvrir des pistes pour penser cette mise en tension.
C'est un aspect très intéressant finalement aussi du récit historique de Guérin qui montre un petit peu toutes ces tensions. Et je trouve intéressant finalement la manière dont son récit progresse, centré autour de cet affrontement entre bourgeois et branus, mais aussi de la contradiction de la bourgeoisie révolutionnaire et de ses différentes fractions en plus, par rapport notamment à la question de la guerre, à la question de la satisfaction des demandes populaires. Donc, par exemple, les montagnards, donc notamment incarnés par des figures comme Robespierre et Saint-Just, vont avoir, disons, l'intelligence, enfin d'essayer, disons, de capter l'énergie du mouvement des sans-culottes pour renverser les Girondins qui, du fait qu'ils n'étaient pas prêts, finalement, à une transformation trop radicale, vont finalement se tourner vers la contre-révolution. Il montre bien, je pense, Guérin, le fait que successivement, les différents partis de gouvernement au pouvoir, les Feuillants, puis les Girondins surtout, puis même Danton après, c'est-à-dire en gros, on va dire la droite entre guillemets des Montagnards, vont successivement penser que l'appui des masses populaires, comme il nécessite des mesures anti-libérales, entre guillemets, notamment le maximum dont on a parlé, et ça va aller jusqu'à des mesures inquisitoires, du genre rentrer chez les riches pour vérifier s'ils n'ont pas stocké des lingots d'or, etc. Toutes ces fractions vont successivement se tourner vers la contre-révolution, la paix avec l'Angleterre, la monarchie, etc. Et qu'au final, la seule faction qui est au début ultra-minoritaire, celle de Robespierre, et qui paraît la plus radicale, va être finalement celle qui va arriver au pouvoir précisément parce qu'elle a compris le coût de ce soutien populaire. Mais en même temps, et ça c'est intéressant aussi chez Guérin, en même temps ce soutien populaire, elle le fait parce qu'elle est intéressée.
Elle l'instrumentalise.
Elle l'instrumentalise parce qu'elle veut gagner la guerre, en fait. C'est son principal objectif. Elle a des intérêts matériels derrière. Même si je pense que chez Guérin, il lit, disons, ces montagnards de gauche, entre guillemets, ou manufacturiers d'armes, de manière assez rapide, on ne sait pas trop comment il fait. Par contre, ce que je trouve intéressant chez Guérin, dans son analyse, c'est que finalement, moins que liés à l'industrie de l'armement, en fait, les montagnards de gauche vont être les représentants de cette nouvelle classe que lui, il appelle les plébéiens. Et que j'ai toujours trouvé une catégorie d'analyse historique très intéressante, parce qu'il introduit une catégorie entre justement les bourgeois et les branus. Dans l'analyse marxiste, il n'y a pas grand-chose au milieu. Et cette figure des plébéiens, donc notamment qui sont incarnés politiquement par les hébertistes, par Hébert, sont ces espèces de gens, disons, qui viennent des classes populaires, qui savent parler aux classes populaires, mais qui, de par le fait qu'ils ont accédé à des positions dans l'appareil d'État, etc., finissent par avoir des intérêts matériels divergents, en fait, parce que leurs intérêts matériels, c'est d'avoir un État de plus en plus fort, un État autoritaire, un État qui ramasse beaucoup d'impôts.
Cette figure aussi des plébéiens, je pense, vient répondre à cette figure de l'intellectuel qui vient traverser aussi la pensée de gauche. Quelle est la place de cet intellectuel qui a accès à l'éducation plus que les classes populaires, mais qui veut prendre le parti des classes populaires? Est-ce que lui, il a des intérêts divergents des classes populaires parce qu'il a eu cette éducation? Enfin bref, cette figure trouble de l'intellectuel avant-gardiste, etc., qui est aussi celle de Guérin, en fait. Hein, parce que, voilà, c'est pas quelqu'un qui vient d'une origine populaire, Guérin. Je pense que ça vient aussi, il veut essayer de trouver une place comme ça, à ces transfuges, en fait. Hein, ces transfuges qui vont jouer des rôles d'interaction entre les milieux, des milieux qui ne se parlent pas forcément bien. Donc il faut ces intermédiaires, en fait, pour que certains événements, certaines alliances se produisent.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, lui, il est assez critique, en fait, de ces intermédiaires.
Mais oui, mais c'est, pour moi, je le lis comme une espèce de lecture un peu paradoxale par rapport à sa position à lui. Et je pense que ce qui anime aussi toute la classe intellectuelle qui s'engage dans les révolutions.
Finalement, Guérin, là-dedans, il va plutôt s'identifier à d'autres transfuges, mais qui, eux, n'ont pas des intérêts matériels si divergents que ça des classes populaires, mais qui ont en même temps un capital culturel, entre guillemets, supérieur, qui sont les enragés. Et lui, je pense que Guérin, finalement, il s'identifie vachement à ce groupe, parce que lui, il a un très important capital culturel, mais finalement, effectivement, il ne fait pas partie d'un appareil d'État ou d'une classe d'encadrement d'entreprise.
Ouais, c'est juste. Ouais.
Donc cette faction de la bourgeoisie révolutionnaire qui, petit à petit, va prendre le pouvoir, non pas de manière mécanique, mais plus simplement parce que sa droite, à chaque fois, va se tourner vers la contre-révolution et par une nouvelle poussée populaire, ce qu'il faut bien dire.
Ça,
à chaque
il y a un
fois.
Mouvement de il y a des dynamiques de radicalisation qui viennent d'en bas, clairement, qui va les conduire au pouvoir, oui.
C'est parce que la faction qui est au gouvernement, qui a le pouvoir, semble reculer ou va vers la contre-révolution, que derrière il y a une poussée populaire, et que finalement des gens qui étaient ultra minoritaires vont prendre le pouvoir, ils ne vont pas prendre le pouvoir tout seuls. Et c'est parce qu'il y a ces poussées populaires. Mais, mais ce qui va se passer, c'est qu'une fois que ces gens qui ont l'air, disons, d'incarner les intérêts populaires vont être au pouvoir, bah, il va y avoir des tensions, en fait. Des tensions entre les classes populaires et, disons, et les robespierristes, qui vont se traduire par voilà, la liquidation des enragés en, à peu près à l'été 1793, c'est ça ? Et ensuite, le clivage va se réduire, et c'est là où on voit que, finalement, le gouvernement robespierriste, en ayant éliminé l'extrême gauche peut-être la plus intéressante, va se retrouver avec des adversaires qui, finalement, sont de plus en plus de droite. Puisqu'ensuite, Guérin en parle de comme une espèce de diversion, la déchristianisation. Donc, toute une campagne, disons, dans l'automne 1793, où en gros, on s'en prend aux églises, on les désacralise, on en fait des lieux de sociabilité, on s'attaque aux prêtres, on s'attaque à la religion. Et c'est beaucoup les hébertistes qui sont derrière ça, nous dit Guérin. Et disons que lui, son interprétation, c'est que les hébertistes qui sont maintenant quasiment au pouvoir, puisque c'est la faction, disons, la plus proche un peu des robespierristes. En tout cas, ils tiennent la Commune de Paris, comme tu as dit, qu'il ne faut pas confondre avec celle de 1871. Voilà, c'est simplement l'instance de pouvoir, une des principales instances de pouvoir à Paris, après le gouvernement et l'Assemblée révolutionnaire. Le Comité de salut public, plus précisément. Eh bien, eux vont, du coup, animer cette campagne. Mais à un moment, Robespierre va considérer que ça va trop loin, que ça sape trop les fondements de l'ordre public bourgeois. Il faut dire que Robespierre s'inspire d'une conception de la Révolution qui est celle de Jean-Jacques Rousseau. Évidemment, ce qui pose plein de problèmes, notamment en termes de genre, parce qu'on va voir que, dans la deuxième partie, que le moment robespierriste est un moment de contre-révolution de genre, notamment avec la fermeture des clubs féminins révolutionnaires. Mais pour en revenir à cette déchristianisation, Robespierre s'y oppose parce que, finalement, lui, il entend créer une espèce de nouvelle religion, une espèce de religion républicaine, et qui est basée toujours sur l'idée d'un ordre, d'un État, d'une société de classe bien ordonnée. Et c'est pour ça que Robespierre, oui, bien sûr, qui critique un petit peu les inégalités, comme Rousseau.
Si, oui, il a critiqué les inégalités, ça c'est clair.
Il critique les inégalités, il critique même la propriété privée, mais il ne remet pas en cause, fondamentalement, l'ordre bourgeois, quoi.
Exactement, oui. Non, ça c'est sûr que... Et même quand on regarde, par exemple, ces projets éducatifs, parce que c'est toujours intéressant de regarder les projets éducatifs pour voir quels projets d'avenir, de société d'avenir, les révolutionnaires proposent, ils imaginent. Robespierre a fait partie de ceux qui ont soutenu le projet de Le Pelletier de Saint-Fargeau. On a toujours dit, ah ben voilà, c'est un projet très célèbre qui reste dans les annales, parce que ça voulait... Il y avait une volonté de rassembler tous les enfants de toutes les classes sociales dans un creuset scolaire dès la plus tendre enfance, donc on les retire de l'influence familiale, si vous voulez, et on les met dans des pensionnats sur le modèle spartiate, où ils ont une mode de vie très vertueuse et rigoureuse, pour l'idée qu'on va fabriquer de l'égalité pour, en gros, saper ce qu'on dirait aujourd'hui les habitudes de classe. Et donc, le soutien de Robespierre à ce projet Le Petit Farfargeau, il y a eu tout un peu un mythe comme quoi il y aurait une volonté comme ça d'abolir les classes par l'éducation. Mais quand on regarde de près ce projet-là, il n'y a pas du tout l'idée qu'après l'école, les gens ne vont pas retrouver leur destinée sociale. Voilà, c'est l'idée. Par contre, ils ont acquis la vertu, c'est-à-dire qu'ils font passer l'intérêt public avant leur intérêt particulier. On travaille sur leurs mœurs. Ça, c'est sûr. Mais par contre, il n'y a pas du tout l'idée qu'on va remettre en cause la division du travail, en fait, tout simplement. Après, les enfants de bras nus continuent à être bras nus et les enfants de bourgeois continuent à être enfants de bourgeois. Donc, je trouve ça emblématique de voir comment il y a pu avoir une peur comme ça, une création d'un fantasme autour de ce projet éducatif qui est finalement radical sur certains aspects, mais au fond, ne remet pas en cause les structures de la société qui apparaissaient de la Révolution.
Un peu comme tout le projet ensuite de l'école républicaine à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Bon, bien sûr, c'est une version plus...
Oui, c'est un peu plus radical quand même que ce modèle-là, parce qu'il y avait vraiment cette idée que les enfants de bourgeois devaient apprendre à vivre comme de manière à comprendre la situation des pauvres, etc. Donc c'est vraiment toute cette notion de vertu qui est centrale chez Robespierre, qui est pour lui une théorie de l'égalité, mais c'est une théorie de l'égalité républicaine.
Idéaliste un petit peu.
Complètement idéaliste, exactement, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça qui distingue. C'est-à-dire que dire qu'il n'y a pas la pensée d'égalité chez Robespierre, c'est absurde. C'est quelque chose qui l'obsède, c'est un thème qui revient dans toute son œuvre, etc. Mais on n'est pas sur une vision de la construction d'une égalité concrète par une transformation radicale des rapports de domination structurés d'une société.
Oui, oui, donc du coup, ça reste un petit peu une idéologie, en fait.
C'est là où ça reste une idéologie. Enfin, c'est mon point de vue, en tout cas. Mais... Ouais, et je pense que c'est le point de Guérin aussi.
Et ça permet d'expliquer notamment pourquoi est-ce que finalement Robespierre, tout en poursuivant finalement des idéaux qui semblent très nobles, au nom du triomphe de ces idéaux qui passent pour lui d'abord par la victoire militaire, va à partir de la fin 1793 s'engager dans un processus toujours plus autoritaire et répressif, dont parle Guérin de manière très intéressante. Enfin, l'arrêt de la déchristianisation. Un gouvernement de plus en plus fort et autoritaire. L'élimination ensuite des hébertistes, qui commençaient à gêner, qui faisaient un second pouvoir et qui finalement ne servaient plus les objectifs de Robespierre. Ensuite, toutes les mesures qui avaient été prises dans le domaine de l'économie sous pression des classes populaires, on va y mettre fin, notamment le maximum... Et puis après, bon, bah, évidemment, sur le plan politique, il va y avoir finalement, toute la vie des sections, la vie de la démocratie directe va progressivement
disparaître. Oui.
Disparaître.
Oui, le grand moment de la vie des districts et des sections, là où il y a vraiment une effervescence démocratique, c'est 91-92. Hein. C'est là où il y a le plus d'inventions de pratiques démocratiques, ça c'est sûr.
Oui, ça déplace finalement la chronologie par rapport à l'idée que 92-94, c'est vraiment le grand moment.
Oui, sous cette zone-là, oui, si on prend sur l'effervescence démocratique comme critère, c'est sûr que ce n'est pas la période la plus radicale, le moment 93-94.
Oui, surtout 93-94, qui est vraiment le moment où...
Une mise à l'ordre, tout simplement. Hein. Mm. Et une volonté de... Parce que c'est toujours pareil, on est aussi... Il faut voir aussi dans quel contexte. On est quand même dans une mise en... Il y a une mise en danger constante de la République. Donc, il y a cette idée qui est défendue donc, par Robespierre, mais donc pas du tout le seul. Et il ne faut pas du tout lui donner plus d'importance qu'il n'en a. Et retomber dans ce mythe de l'homme qui pense tout. En tout cas, c'est cette idée que si on n'agit pas avec autorité, si on ne rétablit pas un pouvoir fort, et bien la République... Et la Révolution va mourir.
Qui est un petit peu finalement le même type de justification qui vont être utilisées pendant la Révolution russe, finalement, oui, que les nécessités de la guerre civile rendent nécessaires des mesures extrêmement autoritaires.
La théorie des circonstances.
Voilà, la fameuse théorie des circonstances.
C'est ça.
Et qui vont mener à une espèce de radicalisation autoritaire de Robespierre, enfin du régime du Comité de salut public, plus précisément, donc effectivement, qui n'est pas que celui de Robespierre. Et qui vont l'amener finalement à se couper de tous ses alliés. Donc d'abord, il va éliminer les Hébertistes, puis après, il va éliminer les Dantonistes. Mmh. Et puis, finalement, à un moment, en tout cas, c'est ce qu'explique Daniel Guérin, ayant perdu le soutien populaire, puisqu'il a réprimé les enragés, les Hébertistes, il a dissous la Commune de Paris, il a dissous toutes les structures de démocratie directe, il a mis fin à toutes les mesures, qui étaient populaires, antilibérales notamment, qui permettaient, à la population de Paris, de faire mieux face à ses besoins de survie, et couper aussi du soutien de la bourgeoisie, les possédants, parce qu'ils pensent que ça va beaucoup trop loin, en fait, l'espèce d'autoritarisme de Robespierre, finalement, lui-même, coupé de toute base, en fait, finalement, va se trouver renversé, quoi. Et là, le récit est complètement différent dans le bouquin de Guérin par rapport à celui de Hazan. C'est-à-dire qu'Hazan, c'est presque une espèce de... Voilà, un dernier discours enflammé, très beau. Il est renversé finalement par la bourgeoisie de droite, alors qu'en fait, il est renversé par, effectivement, la bourgeoisie de droite, mais parce qu'il a éliminé tous ses soutiens, quoi.
Oui, tout à fait, oui, complètement. Ce que propose Guérin, c'est vraiment cette idée, effectivement, qu'il a petit à petit sapé les branches sur lesquelles il était assis. Ce qui n'est pas faux, par contre, ce qu'il ne dit pas aussi, c'est qu'il y a toute une partie, pour le coup, des classes populaires qui ont désapprouvé, finalement, des mesures comme le maximum. Il y a eu des réactions contre le maximum qui ont eu lieu après, parce que finalement ça a eu des retombées économiques pas si positives parfois pour les subsistances. Voilà, il a perdu aussi des soutiens, pas seulement par ces mesures répressives, mais aussi parce que certains ont vu dans les mesures faites au moment intense de l'été 93 des voix qui ne répondaient pas aux aspirations même de la survie populaire.
Oui, ça c'est quelque chose que Guérin d'ailleurs souligne, l'inefficacité en fait d'un gouvernement autoritaire de l'économie.
Voilà,
en fait.
C'est ça, qui ne répond pas tout de suite à un problème d'urgence qui est quand même l'urgence vitale du peuple. Enfin, des classes populaires, une nouvelle fois, faisons attention aussi, j'utilise le terme peuple, mais si il y a tant de malentendus aussi, et c'est ce qu'essaye de lutter Guérin, c'est cette malentendu qui peut exister et qui traverse toute l'histoire politique française entre le peuple et les classes populaires.
Bien sûr.
Parce que, évidemment, quand Robespierre parle du peuple, il parle aussi du peuple, la nation, il parle aussi du peuple en tant que souveraineté, pour le coup rousseauiste, il parle pas forcément des classes populaires. Et donc,
Il inclut toutes les classes, d'ailleurs.
Il inclut toutes les classes, oui. Et là, encore aujourd'hui, dans les, voilà, on voit bien dans les, ceux qui se disent héritiers de Robespierre, il y a la volonté de garder ce même malentendu. Parce que c'est un malentendu aussi qui permet de faire un discours sur l'unité et finalement de ne pas poser le problème de l'antagonisme d'intérêt.
Bien sûr. Mais c'est là où, finalement, ce qu'on pourrait peut-être conclure sur ce livre de Bourgeois et Branus, c'est que c'est une clé de lecture intéressante sur la Révolution française qui permet de repenser pas mal de débats qu'on n'a fait que effleurer, tellement il y en a.
Oui.
Et aussi, c'est quand même un antidote politique à pas mal d'idées voilà, de la gauche, de gouvernement, y compris de la gauche dite radicale, entre guillemets, disons de la gauche étatiste, plus généralement, par son analyse, finalement, de la centralité du clivage de classe, par sa critique finalement des avant-gardes soi-disant de gauche, mais en réalité des avant-gardes bourgeoises, une critique qui s'étend jusqu'aux plébéiens, donc et aujourd'hui c'est pas difficile de penser à qui seraient les plébéiens, et c'est aussi une critique d'une forme de gouvernement, enfin l'idée que il suffirait d'étatiser le capitalisme pour que tout se résolve, enfin voilà, il y a quand même pas mal d'idées dans ce livre qui sont intéressantes aujourd'hui. Après, évidemment, le fait qu'il les plaque en partie sur la Révolution française, ça crée des tensions, mais c'est aussi intéressant politiquement.
C'est une interprétation, évidemment, que maintenant, avec toute l'évolution de l'historiographie, il y a eu énormément de travaux sur des choses très précises qui bien sûr fait qu'on ne peut pas se suffire de la lecture de Daniel Guérin. Et voilà. Mais c'est une interprétation aussi, moi qui m'intéresse aussi par son rapport au passé qu'il propose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a mû mon intérêt pour Daniel Guérin. C'est cette réflexion qu'on avait eue avec un petit groupe, là, on a fait un livre collectif sur l'idée de référence au passé, où on a essayé de distinguer, dans ce petit livre qui est dirigé par Michel Rio-Sarcey et Claudia Moati, on a essayé de distinguer ce qui relevait de ceux qui veulent faire un usage du passé, ceux qui font une référence au passé. Et dans l'idée d'usage du passé, ce serait l'idée, on prend le passé, on l'instrumentalise pour servir une cause, etc. Mais en tout cas, il y a l'idée que le passé n'existe plus vraiment, et qu'on peut le manier, on peut le réifier, on peut en faire une chose qu'on utilise. Et la référence au passé, qui est cette idée plutôt que le passé est toujours vivant, en fait, à travers encore le présent, que faire appel au passé, c'est en faire un moteur, notamment un moteur de lutte, un moteur de résistance, etc. Et je trouve que Daniel Guérin, c'est quelqu'un qui n'est pas dans une lecture d'usage, c'est quelqu'un qui fait appel au passé, qui interpelle le passé pour animer une dialectique passé-présent réelle qui permet l'action aussi, qui permet de dégager des possibles dans son présent. Et ça, je trouve que c'est ce rapport au passé qui est aussi très précieux, au-delà de sa proposition là sur l'interprétation.
C'est une belle conclusion cette première partie, et donc on vous retrouve après une pause musicale.
Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, gens de l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans sautoirs. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est les canuts, nous sommes. Règne arrivera quand votre règne finira, mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, et l'on entend déjà la révolte qui gronde.